La tête au carré, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 14h. C'est un continent qui s'étend sur 2 mètres carrés. On y trouve des régions sèches, humides, des terres grasses, des milliards de microbes voyagent au cœur de notre peau cet après-midi. Alors que nous rentrons de vacances et que nous avons mis à rude épreuve notre épiderme avec les bains de soleil prolongés, les excès en tout genre, Nicolas Dupin est professeur de dermatologie à l'université Paris-Descartes. Il a vu tout au long de sa carrière des centaines de visages et des peaux différentes. Il vient nous parler de cet organe habité qui est le siège de millions de réactions. Il publie « Mon ami la peau, qu'elle nous révèle et comment apprendre à la protéger à tous les âges de la vie ». C'est aux éditions Jean-Claude Lattès. Nicolas Dupin nous rejoint dans un instant. Il attend déjà vos questions sur le site de l'émission. Axel Villard, bonjour.
Bonjour Mathieu.
Et un peu de sport aujourd'hui à la une de la science.
Oui, mais on va y aller tranquillement, d'une parce que c'est la rentrée, mais surtout parce qu'on va s'adresser aux seniors avec l'identification d'une hormone qui pourrait ralentir la fonte musculaire liée à l'âge.
Et puis ce sera la rentrée du docteur Dupagne avec sa chronique de santé polémique désormais le mardi. Il nous dira aujourd'hui s'il faut aller voir un cardiologue lorsqu'on est en bonne santé. Fanny Boyon réalise l'émission préparée aujourd'hui par Irène Menahem.
La tête au carré. Le magazine scientifique de France Inter. Mathieu Vidard.
Bonjour Nicolas Dupin.
Bonjour.
Bienvenue, vous êtes professeur de dermatologie à Paris-Descartes et vous exercez à l'hôpital Cochin. Selon une étude parue l'année dernière, un Français sur trois souffre d'une maladie de peau. Est-ce que la peau, c'est un organe particulièrement fragile et difficile à préserver en bonne santé ?
C'est par nature un organe exposé. C'est le seul de nos organes avec les yeux qui soit véritablement exposé. Et il a des fonctions très précises puisqu'il vient nous protéger et il nous protège. Et il est donc malheureusement en première ligne pour subir des agressions, quelles qu'elles soient, pollution, tabac et bien sûr le soleil.
Ouais. 1800 maladies recensées de la peau. Alors vous ne faites pas toute la liste évidemment dans l'ouvrage, mais le chiffre est important.
Le chiffre est très important quand on la compare à d'autres spécialités comme la neurologie où il y a 300, peut-être 350 maladies véritablement identifiées. Mmh. Et effectivement, dans cette étude, il était montré que sur un an, on pouvait considérer que pratiquement 9 millions de personnes avaient présenté des problèmes de peau. Alors, je dis maux de peau quelquefois ou maladie de peau, hein, ça dépend, je dirais, le degré d'atteinte de la peau.
Avec une méconnaissance, hein, sur toutes ces maladies, d'ailleurs, on y viendra.
Des fausses connaissances et malheureusement, il est quelquefois bon de redire des vérités.
C'est ce qu'on fera avec vous dans un instant et puis vous répondrez donc aux messages, aux questions. Merci. Des auditeurs à l'occasion de la sortie de ce livre « Mon ami la peau » chez Jean-Claude Lattès. Et un petit cours de fitness, Axel, aujourd'hui, à la une de la science.
Allez, c'est parti.
On aimerait bien, en tout
on
cas.
On aimerait bien que ce soit parti.
On avait un toutou YouTube. On peut vous le faire, d'ailleurs, on le connaît par cœur. Hein.
Bah voilà. Vite.
Tout le monde connaît.
On va s'asseoir sur ses talons et on va se redresser très droit.
Pour ça chaud. Allez, on y va. On commence par l'échauffement. Allez, on court sur place. Courage.
Voilà, donc c'est vraiment parti là maintenant.
Alors Mathieu, vous avez certainement, et vous l'avez dit, reconnu Gym Tonic, Véronique et Davina. Et je suis sûr aussi que vous vous demandez comment garder des muscles bien fermes en vieillissant.
Ah oui, moi par exemple.
Non, en réalité je pensais surtout aux plus de 65 ans qui nous écoutent puisque la fonte musculaire est aujourd'hui un des premiers facteurs de la perte d'autonomie des seniors. Alors bien sûr, faire du sport c'est la bonne solution, mais il existe peut-être une hormone, la péline, qui peut vous aider et c'est une découverte faite par des chercheurs toulousains aujourd'hui. Et on accueille Cédric Dré à Toulouse pour nous en parler. Bonjour.
Bonjour Axel.
Vous êtes enseignant-chercheur à l'université Paul Sabatier et au Génopôle. Vous êtes en duplex avec les locaux de France Bleu et vous publiez dans Nature Medicine ses travaux sur la perte musculaire liée à l'âge, qu'on appelle aussi la sarcopénie. Alors quels sont ces mécanismes et pourquoi nos muscles fondent quand on vieillit ?
Alors oui, effectivement, nous avons publié cet article dans Nature Médecine récemment, au mois d'août. La perte musculaire, elle a un autre nom, elle s'appelle la sarcopénie. À partir d'un certain âge, en fait, on se rend compte que on perd 1% de masse musculaire par an. Et finalement, au bout d'un moment, cette perte de masse musculaire, elle va entraîner un phénomène de dépendance. Alors les mécanismes sous-jacents, on les connaissait avant l'étude. On sait très bien que le manque finalement de protéogenèse, donc de synthèse de protéines dans le muscle, va participer à diminuer cette masse musculaire. On sait également que l'innervation ou l'angiogénèse, donc le mécanisme d'irrigation du muscle, est impliqué. Et puis, ce qui nous intéressait à nous, c'est on sait aussi que le métabolisme, donc l'apport énergétique de la cellule musculaire, est altéré au cours du vieillissement. Et donc, l'histoire est partie, finalement, de cette constatation comme quoi le muscle du patient âgé ou de la personne âgée avait beaucoup plus de mal à gérer son potentiel énergétique comparativement à une personne beaucoup plus jeune.
Et cette perte musculaire, donc Cédric Drey, elle commence quand vraiment? Oui. À quel âge à peu près?
Alors, cette perte musculaire, finalement, elle est, quand elle est dans un vieillissement, on va dire, normal, elle commence déjà très tôt, puisqu'à partir de 30 ans, on perd 1% de masse musculaire.
Même accès, alors, vous voyez, il sautait de moi tout à l'heure.
C'est ça. Alors, on ne parle pas, bien sûr, des sportifs ou des sportifs de haut niveau, qui, eux, s'entretiennent et ont une masse musculaire quand même encore assez élevée, même après un certain âge. Là, on parle, on va dire, de la population générale. Mais ce qu'il faut savoir, en fait, c'est que, au-delà de la perte musculaire qu'on va appelé normal au cours du vieillissement, nous, ce qui nous intéresse, c'est la perte dramatique suite à un alitement, suite finalement à une incapacité qui va faire que la personne ne va plus bouger, va perdre excessivement de masse musculaire en peu de temps et aura beaucoup de difficultés passé un certain âge à en récupérer.
Alors, ce que vous venez de découvrir, c'est aussi et surtout l'importance d'une hormone en particulier qui s'appelle l'apelin. Comment est-ce que vous avez travaillé? Je crois que vous avez regardé chez les souris, hein.
C'est ça. Dans un premier temps, on a pu s'apercevoir en fait que cette petite molécule, alors c'est une petite protéine qui s'appelle l'apelin, eh bien en fait, elle était produite dans le muscle de souris lorsque l'on faisait contracter ce muscle. On a vu ça chez l'animal, on a vu ça même dans des boîtes de culture in vitro. On arrive à faire contracter les cellules et on a vu en fait que les cellules musculaires produisaient cette apelin. Et en réponse, en fait, cette apelin, quand elle est produite aux alentours du muscle, elle se fixe sur la cellule musculaire. Et elle lui permet en fait d'améliorer ses fonctions métaboliques, donc son apport énergétique, etc. Et donc c'est à partir de cette constatation-là qu'on a pensé à un potentiel traitement thérapeutique donc pour le vieillissement.
On est sûr que l'apelin existe aussi dans les muscles humains?
Alors, on est sûr qu'elle existe dans les muscles humains, ça a été démontré, c'est pas notre étude, mais ça a été démontré il y a quelques années. Et on est sûr également qu'elle est produite à l'exercice, au cours d'un exercice humain. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est qu'on s'est rendu compte dans une population, en fait, âgée, il y a eu deux cohortes, une en France et une aux États-Unis, en Floride, bien que cette production d'apelin avait l'air d'être corrélée aux capacités musculaires. C'est-à-dire que quand je fais un exercice physique, finalement, si je produis de l'apelin, ça voudra dire que derrière j'aurai un bénéfice en termes de masse musculaire et de force musculaire. Si mon muscle est moins capable ou plus capable d'en produire, j'aurai beaucoup plus de difficultés à faire du muscle et donc à finalement avoir un gain vis-à-vis de cet exercice physique.
Alors maintenant que vous comprenez mieux un peu le rôle de cette hormone, quelles sont les pistes envisagées? C'est prescrire de l'apelin aux personnes âgées qui souhaitent reprendre un peu le sport?
Alors, effectivement, la collaboration que l'on a ici à Toulouse avec la Gérontopole, qui est gérée par le professeur Velas, nous conduit aujourd'hui à penser qu'on pourrait utiliser l'apelin comme un traitement thérapeutique uniquement, encore une fois, vis-à-vis de personnes qui n'en produisent pas. Donc pour ça, on pourra proposer, en tout cas dans le futur, je l'espère, des tests cliniques où on fait juste un exercice de marche, pas besoin de faire un exercice trop intense. On prélève le sang avant, après, on regarde la capacité que l'on a à produire cette apelin. Si on n'a pas de capacité ou des capacités trop faibles, on peut proposer une thérapeutique. Mais au-delà de ça, moi, ce qui me semble le plus intéressant, c'est peut-être d'essayer de mieux comprendre par quel mécanisme l'apelin est produite par le muscle. Et est-ce qu'on peut finalement favoriser cette production par un apport nutritionnel? Je pense par exemple à des oméga-3 ou des choses comme ça, dont on sait qu'il serait bon finalement pour la production musculaire d'apelin.
Est-ce que si on donne de l'apelin à des cellules ou à des patients, on augmente également la propre production, vu que vous avez dit que le muscle en produisait naturellement?
Oui, tout à fait. C'est ce qu'on a pu voir aussi, nous, dans notre étude. C'est que c'est assez intéressant parce qu'on a l'impression que si, finalement, on réamorce le cycle, eh bien, ce cycle-là s'auto-entretient par la suite. C'est-à-dire, quand on a traité nos souris, finalement, au départ, elles n'avaient pas beaucoup d'apelin. Et on s'est rendu compte, au bout d'un mois de traitement, que ces animaux-là, donc bien cagés, eh bien, présentaient une production quasi normale d'apelin par le muscle. Donc, on a l'impression qu'il faut réamorcer la pompe pour pouvoir ensuite avoir un réel bénéfice de ce traitement.
En gros, il ne faut jamais arrêter de faire du sport.
Alors après, bien sûr, la recommandation derrière, effectivement, c'est, vous l'avez bien compris, si je fais du sport tout au long de ma vie, ou en tout cas un exercice modéré, je parviens à conserver mon stock d'apelin dans le muscle, donc j'en produis toujours, et effectivement, derrière, je peux espérer vivre le plus longtemps possible en bonne santé, puisque notre objectif, c'est ça, de faire vivre les gens le plus longtemps possible, mais en bonne santé.
Voilà, la perte musculaire, la souplesse de la peau, Nicolas Dupin, on pourrait presque faire un parallèle aussi, hein?
Tout à fait. C'est aussi une condition très importante. La peau recouvre les muscles et la souplesse de la peau, effectivement, Il faut savoir qu'à partir de 25 ans, on perd 1% de notre collagène.
C'est
donc ça va aussi relativement vite. Mais je suis très intéressé par ce que vous venez de découvrir, nos collègues, parce que je voudrais savoir si effectivement les essais d'injection d'apéline peut-être pourraient être associés au traitement du cancer, parce qu'on sait que la sarcopénie, c'est-à-dire la perte de la masse musculaire au cours du cancer, est un facteur de mauvais pronostic. Donc je ne sais pas s'ils ont des données.
Cédric Dress, que vous avez des infos là-dessus?
Alors c'est rigolo que l'on en parle, oui effectivement.
Ah, c'est parce très rigolo,
que,
oui.
Non, mais je veux dire par là que en fait on a déjà une partie de la réponse à la question, puisque on a été contacté pendant l'étude, on a été contacté par une équipe italienne qui n'avait rien à voir avec ce qu'on faisait. Et cette équipe italienne, en fait, m'a dit, voilà, on est en présence de femmes qui sont atteintes de cancer du sein. Et ces femmes, donc, qui présentent ce qu'on appelle une cachexie, donc une perte de la masse musculaire, qui n'est pas associée au vieillissement cette fois-ci. Eh bien, en fait, dans les biopsies des muscles de ces dames, on avait une diminution dramatique de l'apéline. Mmh. Et donc, on essaye de comprendre aujourd'hui si l'apéline ne pourrait pas, là aussi, pareil, peut-être pas réverser, mais en tout cas diminuer la perte que l'on a de muscles associés à des chimiothérapeutiques ou au cancer lui-même.
Eh bien, bravo pour vos recherches. Donc des pistes. Merci. Très intéressantes. Cédric Dray avec cette publication parue dans la revue Nature Medicine. Merci beaucoup à vous. Merci aux équipes de France Bleu à Toulouse pour ce duplex. Et puis Axel, on se retrouve demain.
Allez, toutou youtou.
Allez, en bref, dans le reste de l'actualité, un nouveau type de cellules nerveuses découvertes dans le cerveau humain. Des chercheurs de Washington pensent avoir mis la main sur de nouveaux neurones qu'ils ont surnommés neurones églantiers en raison de la forme de leurs ramifications. Ces neurones étaient parfaitement inconnus chez l'animal, bien qu'ils fassent partie des neurones inhibiteurs qui ralentissent l'activité des autres neurones autour d'eux. Les chercheurs ne savent pas précisément quel est leur rôle dans le cerveau. Les traces de marijuana dans le lait maternel persistent jusqu'à 6 jours après consommation, bien que la plupart des organisations de santé déconseillent vivement de consommer du cannabis, même médical, pendant la grossesse ou l'allaitement. Il s'agit d'une des premières études sérieuses sur le sujet. Le THC, la substance psychoactive, a été tracée chez 50 femmes plus ou moins consommatrices et retrouvée dans le lait de 63% des femmes consommatrices jusqu'à 6 jours après la prise. L'étude ne précise pas pour autant les effets sur le nourrisson, qui sont donc pour l'instant mal connus. Et puis pour terminer, un caca royal et une drôle de pratique observée chez les rats taupe nus, ces rongeurs champions de longévité et vivant sous terre, qui sont décidément uniques. Ils vivent en colonies très organisées autour de leur reine et des chercheurs viennent de comprendre pourquoi les nourrices qui s'occupent des petits avaient pour habitude de manger les défections de leur reine. Et bien c'est tout simplement parce que les hormones maternelles que ces crottes contiennent les préparent à prendre elles-mêmes soin des tout petits. Allez, on parle de la peau dans un instant avec notre invité Nicolas Dupin. Angelico, et c'était la voix de Mélissa Lavaux.
La tête au carré sur France Inter.
Nicolas Dupin, vous êtes professeur de dermatologie à l'Université Paris-Descartes. Vous exercez à l'hôpital Cochin et vous êtes donc notre invité cet après-midi pour parler de la peau à l'occasion de cet ouvrage, de sa sortie. Mon habit, la peau, ce qu'elle vous révèle, comment apprendre à la protéger à tous les âges de la vie. C'est chez Jean-Claude Lattès. Et les auditeurs ont déjà de nombreuses questions à vous poser. Vous imaginez bien, surtout à la sortie de l'été finalement. Hein. On a laissé un petit peu la peau, on s'en occupe peut-être différemment en tout cas. Et les messages arrivent pour vous sur franceinter.fr et sur le mot-clé l'attaque. Connaître sa peau, justement, apprendre à l'aimer aussi, c'est l'ambition finalement de cet ouvrage qui nous fait découvrir, on le disait tout à l'heure, hein, cet organe visible de 2 mètres carrés.
Tout à fait, c'était un objectif en fait, je dirais presque pédagogique, puisque ça fait partie quand même d'une partie de mon métier. Mais c'est vrai que c'est toujours délicat de faire de la, je dirais un peu de vulgarisation ou de rendre populaire un sujet qui quelquefois est un peu ardu. Mm-hmm. Mais la peau est un organe méconnu, je trouve, à la fois dans sa consistance d'organe, en tant qu'entité, mais également bien sûr toutes les maladies et les maux qui sont attribués à la peau. Et effectivement, souvent quand on a une maladie de peau, on se dit toujours c'est une maladie infectieuse ou une maladie transmissible, ou si on a par exemple la gale, c'est parce que on se lave mal. La gale, qui est une maladie qui est transmise par un parasite, qui n'a rien à voir et qui atteint les gens propres comme les gens sales.
D'ailleurs, vous ouvrez le livre sur les idées reçues, les fausses croyances. Oui. Hein, très rapidement, vous les passez en revue. Est-ce que toutes les maladies sont contagieuses? Ben non, justement, c'est ce que vous expliquez.
Tout à fait.
Et les maladies de peau, c'est pas lié à un manque d'hygiène, hein, la plupart du temps.
La plupart du temps, malheureusement, c'est absolument indépendant de manque d'hygiène. Mais, par exemple, des choses qui sur les verrues, où
on le bassine
dans les piscines, mais enfin bon, la plupart des études
comme
maintenant
montrent...
Bah oui, non, les mycoses, c'est simplement le micro-environnement. Vous avez dit tout à l'heure, c'est un continent avec ses zones sèches et ses zones humides et ses zones grasses. Les champignons, qui sont les mycoses, ils aiment bien l'humidité. En fait, c'est simplement, ils vont se mettre dans les plis parce que ça macère. Et lorsqu'on va se doucher ou lorsqu'on fait du sport, il faut être bien précautionneux pour essayer de bien sécher entre les orteils.
C'est ça.
Sinon, ça va favoriser, c'est simplement le milieu qui va favoriser l'expansion de ces petits microbes et qui vont donner ce qu'on appelait le pied d'athlète, qui a été véritablement épidémique pendant la guerre du Vietnam. C'est-à-dire les GI qui partaient au Vietnam et qui avaient les pieds dans les Rangers, en permanence, qui étaient humide, avait une épidémie, mais alors véritablement, de plaies d'athlètes suffisamment important pour que les autorités américaines en prennent conscience.
Alors, ce qui vous intéresse aussi, vous, c'est l'organe social, hein, qui est la peau, évidemment, parce que ça raconte énormément de choses. Et on peut presque lire un peu la personnalité, la psychologie de la personne, rien qu'en regardant sa peau ou pas, quand on est dermatologue.
Alors, je pense que si on est suffisamment un bon clinicien, c'est le but. Le but du dermatologue, c'est se faire voyant, l'interprète du langage de la peau. Mmh. C'est ce que je dis, c'est-à-dire que les maladies de peau, ou même le vieillissement cutané, qui n'est pas une maladie de peau, mais ça se voit, ça dessine des choses sur la peau, et ces petits signes, les médecins aiment les termes quelquefois un peu compliqués, mais ces petits signes s'assemblent les uns avec les autres, vont se répartir sur votre peau pour inscrire le nom de la maladie. Et je dis bien, quelquefois, il y a des signes qui s'inscrivent sur votre peau et je ne sais pas ce que c'est. Mais je sais que, par exemple, j'ai déjà vu ça. J'arrive pas à mettre un nom dessus, mais je sais que c'est pas grave, par exemple. Et ça, déjà, ça rassure les patients.
Ouais.
Et effectivement, comme vous dites, c'est un organe social, c'est un organe sensuel et social, c'est un organe visible, qui est malheureusement, qui peut nous trahir. C'est pour ça, mon ami la peau, mais on n'est jamais trahi que par ses amis. C'est pour ça que je trouve que le titre va bien, parce que c'est vrai qu'effectivement, la peau, je rougis en public, je décris ça, cet érythème dit pudique, hein, quand souvent sur le décolleté, souvent plus fréquemment chez les jeunes filles, lorsqu'elles se mettent à parler, elles vont avoir des rougeurs qui apparaissent comme une carte de géographie, voire tout un continent sur le décolleté, qui trahit une petite gêne ou une petite timidité. Et puis, je parle souvent des mains moites. Et lorsqu'on serre la main de quelqu'un, et tout de suite, sa peau l'a trahi au niveau des mains, parce qu'il y a eu une hypersudation, ouverture des vannes sous l'influence du système sympathique autonome. Autonome, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Je ne peux pas le contrôler. Et là, je vais avoir les mains malheureusement humides. Ça, ce sont les petits maux de peau qui trahissent probablement des du petit malaise, c'est pas très grave.
Mais
c'est
des émotions. Émotions intimes et sentiments, finalement. La peau parle, elle raconte beaucoup de choses.
Tout à fait.
Et l'œil, ça reste le meilleur outil pour le dermatologue, finalement, malgré toutes les nouvelles technologies qui existent.
Alors, je suis peut-être un peu sévère dans mon livre, mais je suis un peu ancien. Hein. J'utilise maintenant, effectivement. Alors, c'est vrai qu'il y a énormément de progrès dans l'imagerie cutanée qui ont été faits ces 10, 15, 20 dernières années. Et je dirais qu'un dermatologue en routine, son œil doit lui suffire. Mais pour les choses plus compliquées, pour la surveillance par exemple des gens à risque, des peaux à risque, c'est-à-dire des gens qui ont plein de grains de beauté, ces petites taches brunes qui peuvent devenir éventuellement des cancers de la peau parfois, pour ce type d'observation dermatologique, on a besoin d'outils beaucoup plus performants. Et effectivement, il y a une révolution avec la dermoscopie qui permet maintenant non seulement de prendre des photos des images, mais de les numériser et de les comparer d'un examen à l'autre. Alors c'est assez contraignant. Donc c'est pour ça que je dis qu'en routine, c'est difficile de le faire. Il faut vraiment avoir une consultation spécialisée pour ce type d'approche.
Et vous dites, j'aimerais inventer le Shazam de la peau. Ce serait tellement pratique.
Mais j'ai des jeunes externes, parce que c'est ce qui est bien dans mon métier, c'est qu'on, quand on reste professeur, on vieillit sans le savoir, parce qu'on reste jeune avec
grâce aux générations
qui arrivent. On se dit toujours, il y a un de mes collègues qui disait, c'est marrant, on les prend de plus en plus jeunes, mais il oubliait de dire que lui prenait un an chaque année. Bref, en tout cas, c'est vrai qu'effectivement, le Shazam de la peau, ça serait absolument génial. Ouais. Et c'est vrai qu'avec la raréfication, la désertification du paysage médical, on va avoir à développer de plus en plus ce qu'on appelle la télémédecine. Et c'est vrai qu'effectivement, peut-être dans l'avenir, des agents de santé, comme au 19e siècle, reprendront le relais en mettant
derrière l'ordinateur.
En mettant juste exactement l'image sur l'ordinateur.
Alors, il y a beaucoup de questions déjà pour vous, Nicolas Dupin. Il y a Jacqueline qui nous dit ceci. J'ai 63 ans, une peau de rousse que j'ai toujours protégée. Mais maintenant que je vis plus à l'extérieur, avec le jardin et les marches, eh bien, j'arrive à bronzer malgré une protection 50. Mon fils qui est roux s'inquiète pour mon capital soleil. Qu'en est-il de ce fameux capital? Alors, ça a un sens ou pas?
Alors, ça a un sens.
Et selon les teintes de la peau, d'ailleurs?
Tout à fait. Vous savez, il y a deux façons de classer les gens sur la peau. Il y a le phototype, hein, c'est-à-dire comment je bronze, est-ce que j'arrive à bronzer et est-ce que je prends des coups de soleil. Et le phénotype, c'est la couleur de la carnation de la peau qui va d'albino, c'est-à-dire complètement dépigmenté puisqu'il y a un défaut de fabrication de la mélanine, jusqu'à la peau noire. Donc on va avoir 6 stades et la couleur des cheveux. Donc avec tout ça, on arrive à dire. Mais je dirais que Jacqueline, je lui conseillerais de toujours se protéger parce que malheureusement, même si elle a l'impression de bronzer, d'abord on ne bronze pas vraiment avec du 50, donc il doit y avoir quelque chose, une brunification, un petit bronzage, mais elle n'est pas protégée. Je pense que quand on a une phototype et un phénotype plutôt roux, il faut continuer, parce qu'on a un capital, on a ce capital solaire, on s'en est aperçu dans les années 80, c'est très important, c'est une question assez importante, mais il y a malheureusement des conditions génétiques qui font que on a moins de chances que d'autres.
Nicolas Dupin, on va écouter l'extrait d'un épisode qui avait été diffusé sur Arte Radio l'année dernière, celui d'un journal d'une jeune femme qui s'appelle Fabienne, journal de son psoriasis. Elle a essayé de tester tous les remèdes des sorciers, guérisseurs, autres marabouts pour voir ce qui fonctionnait, et on écoute ce journal sonore.
Ce qu'on entend, là, c'est mon psoriasis. Ce sont des petites plaques rouges qui apparaissent sur mon corps. Elles surgissent, comme ça, comme des fleurs qu'on voit jamais éclore. Parfois, ça me gratte. 2, 4, 10.
Des plaques par là.
10 forment une plaque.
Merci, par là.
2 plaques se rejoignent.
Des plaques par-ci.
3, 4, ça recouvre une jambe.
Par là.
2 jambes.
Par-ci, par là.
Il y en a dans le dos. Je les vois pas dans le dos.
Par là.
Quelque chose s'exprime sur moi sans mon autorisation. Quelque part, j'aime assez cette transgression. Mais quand les envahisseurs s'obstinent à conquérir ma peau, alors ça me fragilise. Et je me sens impuissante. Et ça m'agace. Aujourd'hui, le psoriasis est devenu une sorte de baromètre de mes émotions. Il y en a qui ont toujours mal à la tête ou qui ont tout le temps froid. Moi, je fais du pso. J'oscille entre des phases aiguës, où mon corps est bien envahi, et des temps morts. Un temps mort, c'est au minimum quelques plaques sur les jambes. En fait, elles sont pas mal, mes jambes. C'est dommage.
Voilà, très bien ce journal d'un psoriasis avec la voix de Fabienne et sa description, son ressenti de sa maladie de peau.
Très émouvant et je trouve traduisant parfaitement ce que nous, on interprète en tout cas sur, sur cette maladie. Et le témoignage de cette patiente est tout à fait extraordinaire, je trouve. Effectivement, c'est un moyen également peut-être de se traiter également que d'en parler et d'en faire, ouais. Et d'en faire l'objet de cette introspection.
C'est ça. Alors
sonore.
Justement, elle s'amuse à tout tester hein, pour ouais. voir ce qui fonctionne vraiment. Donc c'est ça qui est intéressant. Puis bah, au bout du compte, elle s'aperçoit qu'il n'y a pas grand-chose qui marche. Sur le front du psoriasis, qu'est-ce qu'il existe aujourd'hui?
Je crois que véritablement, ce que je dis, la dermatologie est une spécialité en marche, mais c'est un petit peu cabotin de dire ça. Mais effectivement, c'est une spécialité qui a été transformée. Et en particulier dans les maladies inflammatoires de la peau, et en particulier dans le psoriasis. Le psoriasis a évolué, ce qui est très intéressant, depuis 20-25 ans, on a beaucoup mieux décrit les mécanismes physiopathologiques qui conduisent aux lésions de psoriasis. Et on a pu identifier, un peu comme la péline tout à l'heure, c'est-à-dire des petites protéines qui étaient elles-mêmes responsables peut-être de l'inflammation d'un secteur, parce que la peau a trois étages, donc d'un secteur, par exemple, du secteur favorisant, par exemple, dans le psoriasis, un phénomène important, c'est le renouvellement de la peau qui est accéléré. Donc on a identifié et on a pu à la fois identifier ces petites protéines et trouver à chaque fois des anticorps, parce que maintenant c'est l'immunothérapie, la biothérapie qui permettent de traiter. Et on a pu identifier des petites molécules, donc des anticorps qui bloquent ces petites molécules. Donc on a tout un arsenal thérapeutique maintenant pour traiter le psoriasis. Malheureusement, c'est vrai que c'est contraignant parce que c'est une maladie chronique. C'est-à-dire une maladie chronique, malheureusement, c'est une maladie qui faut vivre avec parce que on peut trouver des traitements qui empêchent le psoriasis d'apparaître. Et si on suspend le traitement, alors le psoriasis peut revenir.
Allez, Nicolas Dupin, vous êtes notre invité cet après-midi dans ce dossier Peau sur la tête au carré et les messages pour vous sur franceinter.fr. Bad news, et c'était Léon Bridges à l'instant.
La tête au carré. Sur France Inter.
Voilà, professeur Nicolas Dupin avec nous pour Mon ami la peau, ce qu'elle vous révèle, comment apprendre à la protéger à tous les âges de la vie, depuis le bébé, vous parlez du peau à peau d'ailleurs, à la peau de l'adolescent jusqu'à la peau qui vieillit. Bah, tous ces processus, on les connaît bien quand même maintenant.
Hein. On connaît très très bien et c'est vrai que toute la, y a pas une peau, il y a une peau en fonction des âges, il y a une peau en fonction des topographies, il y a une peau en fonction de la couleur de la peau, effectivement. Et c'est vrai que le peau à peau, alors il a, c'est pas une nouvelle technique, mais ça envahit un peu, c'est très marketing. Mais c'est vrai qu'il semble bien que ça puisse avoir des petites efficacités, en tout cas sur la relation mère-enfant dès la naissance. Mais c'est vrai qu'effectivement, ça va de soi.
Alors vous revendiquez la peau comme le deuxième cerveau. Alors vous bataillez contre le microbiote intestinal,
Je vais avoir du mal parce que c'est vrai qu'il y a, actuellement, il y a une telle littérature maintenant qui abonde sur effectivement le rôle du microbiote intestinal, notamment pour plein d'autres maladies, notamment même les réponses à des traitements, même les réponses à des chimiothérapies ou des immunothérapies. Donc pour l'instant,
pourquoi vous faites ce lien quand même direct entre le cerveau et la peau? Alors parce qu'il y a des raisons physiologiques aussi.
D'abord quand même on a des ancêtres un peu communs puisque nos cellules dérivent de la crête neurale et effectivement dès la vie embryonnaire on a des cellules
communes,
tout à fait communes et il y a dans la peau des récepteurs, des cellules réceptrices neurologiques qui sont pas très représentées dans l'édifice de l'épithélium, c'est-à-dire de la surface la plus superficielle, mais donc on est en contact direct avec notre cerveau. Vous voyez comment, lorsque je touche ma peau, il y a une infraction de seconde, ça va remonter au cerveau, puis ça va revenir systématiquement pour donner la sensation du toucher. Donc véritablement, on ne peut pas dissocier le système nerveux, qu'il soit central ou périphérique, de la peau.
Lucien nous dit, est-ce que les peaux sont différentes en fonction de leur couleur? J'ai entendu dire que la peau noire était la plus sensible et que les Japonais avaient la peau la plus résistante. Je suis un homme noir, dit Lucien, et il est vrai que je n'ai pas eu souvent des coups de soleil, mais j'en ai eu parfois.
Alors, on distingue les peaux en fonction de la couleur de la peau ou en fonction de son comportement à l'exposition solaire. Donc, on va avoir des phototypes clairs qui ne vont pas supporter de se mettre au soleil et qui ne bronzeront jamais. Mmh. Et puis, des phototypes noirs qui, eux, généralement, n'ont pas besoin de se mettre au soleil pour bronzer parce qu'ils sont naturellement avec une peau pigmentée. On peut être à peau pigmentée, c'est-à-dire noire, et prendre des coups de soleil. Ça arrive, ça a été décrit, mais ils sont quand même beaucoup moins exposés, et notamment à des risques inhérents à l'exposition solaire, qui sont le vieillissement cutané prématuré et surtout le risque de cancer de la peau. Par exemple, ce mélanome dont je parlais tout à l'heure, c'est exceptionnel sur peau noire. Ce qu'on voit quelquefois sur peau noire, c'est des mélanomes accros. C'est des mélanomes, par exemple, au niveau des pieds. Donc il faut faire ça, j'incite les gens à peau pigmentée, à peau noire, de vérifier effectivement que sous la plante des pieds, tout se passe bien. Hein, Bob Marley, malheureusement, vous savez, est décédé d'un mélanome avec des métastases cérébrales parce qu'il avait un mélanome au niveau de l'orteil qu'il n'avait pas diagnostiqué. Donc on peut avoir une peau pigmentée mais n'être pas forcément complètement protégé.
Nicolas Dupin, qu'est-ce qui vous a donné envie de devenir dermatologue? Vous le racontez dans votre ouvrage, il y a un contexte tout à fait particulier qui vous a vraiment lancé dans cette discipline.
Alors moi j'ai commencé mes études en 1980. Donc 80, je pense Mathieu, vous comprenez, je suis né avec le VIH, j'ai fait tout mon externat et tout mon internat.
Avec la découverte.
Avec la découverte du VIH et avec la découverte d'une maladie qui atteignait la peau, qui s'appelle la maladie de Kaposi, qui est une maladie maintenant qui est devenue très rare, parce que en traitant le VIH, on améliore la maladie de Kaposi. Effectivement, cette maladie de Kaposi a été décrite au 19e siècle et serait restée une maladie, je dirais, obscur et n'intéressant que quelques entomologistes, dermatologistes français ou autres. Mais dans les années 80, on voit apparaître une nouvelle forme de maladie de Kaposi sur la côte ouest et la côte est des États-Unis. Et cette maladie de Kaposi touche là, non plus des sujets âgés, non plus des hommes âgés, mais touche des hommes plutôt et jeunes.
Eh bien justement, on va écouter un document de l'époque, c'était en 1982 dans le journal d'Antenne 2, présenté par Chrissy Lockrent.
Le sarcome de Kaposi, tel est le terme savant d'une forme de cancer qui s'était déjà manifestée en Afrique et qui frappe maintenant en Occident.
Depuis quelque temps, un étrange problème vient d'apparaître dans la société gay des grandes villes américaines. Le développement d'un cancer rarissime, le sarcome de Kaposi. Alors qu'il était pratiquement inconnu aux États-Unis, on vient d'en dénombrer 220 cas, dont 91 mortels, essentiellement dans la communauté gay. Les médecins sont à la fois inquiets et passionnés. Ils savent en effet que s'ils arrivent à comprendre pourquoi ce cancer prolifère subitement et massivement chez les gays, ils apprendront quelque chose de fondamental sur la véritable nature de la maladie.
Voilà, donc c'est un cancer, le Kaposi.
Alors on peut l'assimiler à un cancer, ouais. Parce que c'est vrai qu'effectivement, moi j'ai connu en tout cas cette maladie qu'on ne pouvait pas traiter, c'est un cancer de l'immunodéprimé. Je le dis, c'est une tumeur opportuniste, c'est une tumeur qui survient chez les patients qui ont une baisse de leur immunité. C'est pour ça que c'était observé, et c'est observé encore chez des sujets âgés. On ne perd pas que des cheveux avec le vieillissement, on perd des cellules de l'immunité. Et cette tumeur était véritablement un cancer. Et j'ai vu des patients couvert de cette tumeur. Et c'est, je pense, quelque chose qui m'a beaucoup frappé en me disant, je veux savoir ce qui se passe derrière. Je veux comprendre qu'est-ce qu'il y a en surface, mais je veux savoir ce que cache cette tumeur à l'intérieur. Je veux découper ces tumeurs pour essayer de comprendre quelle en est la cause. Parce que, véritablement, on pouvait considérer que peut-être que le VIH pouvait être la cause de ce Kaposi, mais qu'il pouvait y avoir peut-être un virus ou autre qui soit réveillé par la baisse de l'immunité liée au VIH et qui puisse provoquer ce Kaposi. Il aura fallu attendre 1994 pour qu'une équipe de Columbia University découvre le virus responsable de cette tumeur qui s'appelle le HHV8 ou Kaposi sarcoma herpes virus. Et de façon contemporaine, ça a été pratiquement en même temps qu'a été mis en place les traitements contre le VIH. Donc en même temps, on trouvait la cause de ce Kaposi, mais en même temps, on trouvait la meilleure façon chez les patients infectés par le VIH de traiter cette tumeur. C'est de donner les traitements contre le VIH
qui restaurent l'immunité. Donc les ont permis vraiment d'effacer...
Je suis parti en 97 en Angleterre faire 2 ans de recherche à cette époque-là à l'Institute of Cancer Research sur le Kaposi. Et quand je suis parti, j'avais des patients qui étaient en train de mourir. Et lorsque je suis rentré, ces patients me donnaient des coups dans le dos en me disant « Tu vois, vous voyez, docteur, nous sommes là et nous sommes bien vivants. » Ils avaient, ce que j'explique dans le livre, fait le deuil de la mort comme d'autres patients VIH. C'était c'est une histoire assez, je dirais, fascinante et emblématique de l'épopée du VIH.
La mer va dehors, la mer va dedans. Touche le petit poisson qui habite dans la mer, c'est vrai. Tu sais, la mer c'est bleu et les poissons sont verts. La mer c'est bleu et les poissons sont verts, c'est vrai. C'est un fait. Et tout le monde va à la plage. Parce qu'il est bien joli. Et tout le monde s'amuse bien à la plage. Les éléphants sont gris et la mer c'est bleu. La mer c'est bleu et les éléphants sont gris. Mais qu'est-ce qu'il y a des éléphants aussi? La mer c'est bleu et les éléphants y vont. Éléphants font des vacances comme tout le monde. Et tout le monde va à la plage parce qu'il est bien joli. Et tout le monde s'amuse bien à la plage. Comme ça. Ils montent dans un bateau. Le bateau ne marche pas, c'est trop petit. Les éléphants tombent dans la mer. Les éléphants, ils nagent jusqu'à la plage. Les éléphants, ils nagent jusqu'à la plage. Les éléphants, ils sont sauvés. Et tout le monde va à la plage parce qu'il est bien joli. Et tout le monde s'amuse bien à la plage.
Et c'était la mer avec les Little Rabbits.
La tête au carré.
Voilà, et si on va à la plage Nicolas Dupin, bah, il faut se protéger pour ceux qui y sont encore, parce qu'il va faire chaud là aujourd'hui. Donc attention sur la question des mélanomes en particulier. Hein.
Oui, alors moi j'ai dit on peut tout oublier pendant l'été, sauf sa peau. Et bon, moi qui reviens, alors vous me voyez un peu aller, mais je dis crèmez-vous les uns les autres, pas cramez-vous quoi. Donc effectivement, quand je vois encore sur les plages actuellement des gens qui sont blancs le matin, roses l'après-midi, rouges le soir et qui reviennent rouges le lendemain,
oui.
C'est ça qui est mauvais. Parce que la peau a une mémoire, et la mémoire du coup de soleil. Il n'est pas rare que certains patients que je suis me disent avoir eu un coup de soleil il y a 30 ans. Et là, toc, c'est là qu'est sorti le mélanome 30 ans plus tard. Donc effectivement, le mélanome, c'est un peu compliqué avec le soleil, mais c'est vrai que le soleil est un facteur qui prédispose.
Ouais. Et préparer la peau. Hein. Vous dites que le choc justement solaire, tout d'un coup, on a passé 11 mois hors du soleil et puis on s'expose sur la plage, ça c'est dangereux. Hein.
Alors, préparer sa peau, c'est un peu une ineptie. Je dirais qu'il faut être prudent, c'est-à-dire qu'il faut se protéger. On peut se protéger vestimentairement parlant, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas meilleure protection que le vêtement, mais on ne peut pas rester habillé sur une plage. C'est pas décent.
Et vous dites le chapeau plutôt que la casquette d'ailleurs. Hein. Bon. Pour Rémi, tiens, qui nous écrit, il est couvreur depuis 17 ans, il travaille tous les jours dehors, il faut faire attention, au crâne en particulier.
Hein. Ce sont des vraies professions à risque. On sait très bien que les gens qui sont exposés de fait de leur profession aux rayons UV font plus de cancer que d'autres. Alors la casquette, c'est moins bien que le chapeau, c'est vrai que ça tient quelquefois mieux parce que ça tient mieux au vent que le chapeau, mais le chapeau protège en même temps les régions rétro-auriculaires et notamment les régions des oreilles postérieures.
Ah, oui.
Et il n'est pas rare de voir... Alors, il y a deux types de cancers de la peau. Il y a le mélanome qui est celui qui, malheureusement, quelquefois peut se terminer très très mal. Et puis il y a d'autres cancers qu'on appelle les carcinomes qui sont beaucoup plus fréquents. Ça peut toucher jusqu'à un tiers de la population. Et ces carcinomes, on sait que là, c'est le soleil chronique. Et c'est effectivement des soleils. Par exemple, quand il y a des études aux États-Unis qui ont montré que chez les chauffeurs routiers, ben, il y avait plus souvent ces carcinomes sur le bras gauche,
ben oui,
parce qu'il est exposé en dehors de par la fenêtre.
Fabrice, qui est moniteur de voile, nous écrit « Je mets de la crème solaire 50 fois par jour, parce que sur l'eau, évidemment, c'est très dangereux. Je suis très bronzé quand même. Est-ce que c'est dangereux sur le long terme » demande-t-il. Et la crème solaire en elle-même est-elle dangereuse ?
Alors, il y a deux questions. Le soleil, au long terme, peut être dangereux si on a une peau qui n'est pas adaptée. On en a parlé tout à l'heure. C'est-à-dire, un phototype clair, bah, clairement, il faut qu'il se protège. Si vous arrivez à bronzer, vous allez peut-être être un peu moins à risque de développer des cancers de la peau. Vous exposerez quand même à un vieillissement prématuré de votre peau, parce qu'on sait que c'est un facteur déterminant du vieillissement de la peau.
Ah oui, vous avez une formule d'ailleurs dans votre livre qui m'a fait beaucoup rire. C'est
une peau
bronzée, vieille peau fripée. Oui. C'est ça. Ben voilà. Bah,
je voulais sortir quelques mots un peu.
C'est bien, c'est un bon slogan.
Bon, enfin, c'est quelquefois un peu excessif.
Oui.
Mais pour revenir aux crèmes solaires maintenant.
Oui.
Est-ce que c'est dangereux? Je pense que s'appliquer 15 jours...
Pour l'environnement, ça peut être dangereux. Hein.
Oui, on sait qu'effectivement, il y a non seulement des perturbateurs endocriniens, mais aussi des perturbateurs de l'environnement avec certaines crèmes, avec certains produits qui vont bientôt même être interdits dans certains pays, à Hawaï par exemple, parce que ça détruit le corail et que c'est effectivement un facteur de nuisance écologique assez important. Mais parce qu'il y a des tonnes de crèmes solaires qui sont déversées sur ces plages. Donc effectivement, je pense qu'à titre individuel, en tant que protecteur, une application pendant 15 jours, 3 semaines d'une crème solaire, c'est mieux que les coups de soleil. Donc si vous voulez quand même vous exposer au soleil, bah, il faut calculer plusieurs choses. Le niveau d'ensoleillement où vous allez, bien entendu, c'est pas pareil. Il y a des zones à faible risque, des zones à moyen risque, à risque élevé ou à risque très élevé. Hein, c'est en fonction de la latitude, bien entendu. Et puis votre peau, hein, comment vous réagissez au soleil. Tout ça fait que la crème, pendant de courtes périodes, sont pas trop, c'est pas très nuisible pour l'organisme.
Les UV avant, alors, c'est non absolu ou
non,
pas?
Non, pour moi, non absolu. C'est ce que j'écris dans mon livre. Pourquoi? Parce que c'est souvent, en plus, des UVA, les UV. Alors, il y a deux types d'UV, parce que c'est compliqué, le soleil. J'ai essayé de schématiser ça dans mon livre, mais il y a les UVA, les UVB, les UVC. Les UVB, c'est ceux qui produisent une mélanine qu'on appelle E-mélanine, qui est protectrice. Parce que la mélanine, c'est la meilleure façon de se protéger contre les effets directs du soleil sur les noyaux des kératinocytes, des briques roses, comme je les appelle. S'il n'y a pas de mélanine, il y a plus de risques de faire des cancers. D'accord ? Or, les UVA font fabriquer une mélanine de mauvaise qualité. une sous-mélanine qu'on appelle phéomélanine, qui va s'oxyder très rapidement, qui va se dégrader, qui n'est pas protectrice. Donc c'est un leurre que de penser que préparer sa peau au soleil, ce qui n'empêche pas de voir certaines boutiques ouvertes matin, midi et soir, dimanche compris, et qui marchent très bien.
Mais enfin, ça marche de moins en moins bien quand même. Hein.
Oui, mais c'est quand même, il y en a certaines qui sont quand même très, très actives.
Est-ce que vous avez vu ce film La Piel qui est Habito?
Eh bien non, je connais le film, je connais le metteur en scène, mais
Pedro
je n'ai pas
Almodovar
vu le film.
Pedro Almodovar avec Antonio Banderas, on va en écouter un extrait, parce que là, il est en train de réaliser justement, Antonio Banderas, une peau artificielle.
J'ai donné le nom de Gal à la peau artificielle sur laquelle je travaille depuis quelques années. Dis-moi si moustique te pique. Cette peau résiste à la piqûre de n'importe quel insecte.
Non.
Et serait par conséquent une barrière naturelle pour éviter la malaria, par exemple. Naturellement, j'ai effectué un contrôle rigoureux de la qualité des tissus implantés sur des mammifères. En l'occurrence, des souris atymiques. Et les résultats obtenus sont spectaculaires. Ce qui laisse supposer qu'on obtiendrait également des résultats excellents chez l'être humain.
Dans votre exposé, vous avez affirmé que cette peau résiste aux piqûres de moustiques comme ceux qui propagent la malaria. Et qu'est-ce qui vous fait croire ça ?
La peau artificielle est beaucoup plus dure que la peau humaine et a une autre odeur. Il a été démontré que le moustique de la malaria reconnaît la peau humaine à son odeur.
Cela ne suffit pas. Comment avez-vous réussi à endurcir cette peau ? Il n'existe qu'un seul moyen d'endurcir la peau, par mutation.
Oui, c'est ce que j'ai fait.
Transgenèse.
J'ai transféré les données génétiques prélevées sur la cellule d'un cochon à une cellule humaine.
D'un cochon ?
Leur peau est plus dure que celle de l'homme.
La Piel qui est Habito, Nicolas Dupin. Est-ce que la peau artificielle, elle existe aujourd'hui ? On arrive à en fabriquer un petit peu en laboratoire ou ça reste compliqué ?
C'est compliqué. C'est un immeuble à 3 étages. Alors on peut faire le premier, le deuxième, mais tous les habitants, reconstituer tous les habitants de chacun des étages, c'est un peu compliqué quand même.
Ouais. Et l'étage le plus profond de la peau en particulier ?
L'hypoderme, c'est un étage gras, il sert d'interface, il n'est pas si compliqué que ça. Je dirais que le derme est un... Je dirais que c'est probablement, il brille par sa diversité, le derme. Et c'est lui qui nourrit avec les vaisseaux, et les vaisseaux dans la peau artificielle, c'est pas si simple de faire venir des vaisseaux dans la peau artificielle.
Existe-t-il des risques à l'utilisation d'un auto-bronzant ? Demande Frédéric, allez, on continue.
Sauf croire qu'on est bronzé.
Ouais. Donc pas de risque.
Pas vraiment de risque.
Fabienne dit, depuis 10 ans, j'ai une acné rosacée que je ne soigne plus. Y a-t-il des recherches sur cette maladie concernant les alternatives possibles du côté de l'alimentation ?
Il y a des recherches sur cette maladie, il y a eu des développements de quelques molécules récemment, et notamment de topiques, mais clairement c'est encore une fois un mot chronique de la peau qui malheureusement nécessite la prise par exemple d'antibiotiques au long cours, mais il n'y a pas de traitement miraculeux actuellement.
Bernard dit, je suis atteint de séborrhée depuis mes 25 ans, les gens souffrant de cette maladie savent combien c'est gênant, on arrive parfois à ne plus vouloir sortir de chez soi pour ne pas montrer son visage. Aucun traitement n'a réussi à soigner ces rougeurs et squames accompagnés de terribles démangeaisons sur le visage et sur la poitrine.
Alors plutôt que de séborrhée, je pense qu'il est atteint de dermatite séborrhéique, qui est véritablement une dermatose très courante, puisque ça peut toucher jusqu'à 20% et plus fréquemment les hommes. C'est une vraie maladie, je dirais un vrai mot de peau, qui est associé véritablement au stress. C'est très particulièrement des maladies qui reviennent lorsqu'on a un coup de blues ou un coup de bourre dans le travail. Et effectivement, c'est très très particulier. C'est un peu frontière avec le psoriasis, mais c'est vraiment localisé au niveau du visage. Là encore, il y a des progrès dans la compréhension. On pense que là encore, c'est des maladies auto-inflammatoires de la peau qui sont liées probablement à des soit des petits ectoparasites, soit un défaut de l'immunité innée de la peau. Mais malheureusement, là encore, c'est une maladie chronique et on doit de temps en temps accepter et vivre un petit peu avec.
Ouais, l'effet du stress, c'est incroyable quand même. De quelle façon il s'exprime justement sur la peau à chaque instant ?
Tout à fait, et je trouve que c'est très très intéressant, et à mon avis, bon, il y a des équipes qui travaillent dessus, des équipes qui travaillent sur neuro, je dirais, physiologie de la peau, et qui dont le stress est un des éléments importants. Et c'est fou comme le stress peut avoir des effets tout à fait différents. Chez une certaine personne, ça va donner du psoriasis, chez une autre personne une dermatite séborrhéique, chez une autre personne une acné, une autre personne un vitiligo, une pelade. Donc c'est très très particulièrement très varier l'influence du stress sur les maladies
de
peau.
Sauf est-ce que c'est le stress qui engendre des maladies de peau ou est-ce que c'est le contraire vous posez la question.
C'est le vrai le cercle vicieux. C'est rarement démontré que la prise en charge du stress permet à lui seul de traiter une maladie. Mais c'est vrai que pour le psoriasis, pour prendre en considération les effets psychologiques sont importants pour aider à guérir.
Vous dites qu'il y a de plus en plus d'acné chez les femmes aujourd'hui ?
Alors c'est un phénomène qu'on voit de plus en plus chez les femmes de 35-40 ans, des acnés tardives, chez des femmes qui ont pu avoir de l'acné, mais pas forcément. Et on pense qu'il y a une influence à la fois possiblement du stress, du niveau de vie, possiblement aussi cosmétogène. Il y a probablement également quelques cosmétiques qui sont acnéogènes. Et puis également peut-être des effets hormonaux sur de l'alimentation ou autre.
Bon, multifactoriel en somme. Oui, quand on dit que c'est multifactoriel. Alors une question d'Agnès de Toulouse. L'épilation laser définitive est-elle dangereuse pour la peau du fait des rougeurs ?
Non. Non, c'est pas dangereux l'épilation définitive, mais voilà, je ne prône pas l'épilation définitive, mais c'est pas dangereux.
Et puis Sophie, vous parliez du vitiligo, demande s'il y a des avancées sur le traitement de cette maladie qui est une dépigmentation de la peau.
Je dis, c'est une affaire de super spécialiste le vitiligo. Il y a des avancées sur la compréhension de cette maladie. Effectivement, il y a une part dépigmentante, il y a une part inflammatoire. Et les gens qui prennent en charge le vitiligo, ben, ils prennent en charge ces deux composantes. Donc on va probablement progresser. Mais pour l'instant, il n'y a pas de révolution thérapeutique dans le vitiligo.
Il y a une jeune femme, d'ailleurs, dans votre livre, qui se réveille,
qui rêve un cauchemar. En
voilà,
fait.
Mais
finalement, elle ne l'a pas.
Voilà, plein de conseils, en tout cas très pratiques, dans cet ouvrage qui est sorti donc chez Jean-Claude Lattès pour apprendre, mieux connaître notre peau. Et ça s'appelle Mon ami la peau. Vous en êtes l'auteur, professeur Nicolas Dupin. Merci beaucoup d'être venu nous en
merci
parler
à
la
vous.
Tête au carré. Merci aux auditeurs pour les nombreuses questions. À bientôt.
France Inter, santé polémique avec le docteur Dominique Dupagne.
Attention, je vais piquer.
Et il est de retour avec ses bretelles le mardi, dorénavant. Bonjour Dominique Dupagne.
Bonjour Mathieu.
Et avec une question de rentrée, faut-il voir un cardiologue lorsqu'on est en bonne santé ?
Bah, c'est quand même une question importante hein, face au nombre d'électrocardiogrammes systématiques réalisés à l'occasion de check-up, y compris ceux organisés par la Sécu. En France, on se pose pas trop de questions, on part du principe qu'un examen médical est toujours utile, c'est toujours mieux que rien.
Et alors ?
Bah, alors ça fait des années que j'explique ici le danger potentiel de faire son docteur Knock en cherchant des maladies chez des gens qui ne se plaignent de rien. Alors, bien sûr, pour l'hypertension artérielle, le cancer du col de l'utérus ou du côlon, il n'y a pas photo, il faut. Alors, pour d'autres cancers comme la thyroïde ou le pancréas, le dépistage est plus dangereux qu'utile. Encore une fois, je parle de gens qui ne présentent aucun symptôme. Et donc, là, je vais vous parler de l'électrocardiogramme, l'enregistrement électrique du cœur réalisé allongé, au repos, ou pendant un effort en pédalant sur un vélo. On parle alors d'une épreuve d'effort.
Oui.
Le procédé a été mis au point par Willem Einthoven il y a plus d'un siècle et il a révolutionné le diagnostic des affections cardiaques chez les patients présentant des douleurs, des malaises ou des palpitations. Et la question est donc, cet électrocardiogramme, appelé couramment ECG, au repos ou à l'effort, a-t-il un intérêt en dépistage chez les gens bien portants ?
Ben, on attend la réponse, vous allez nous le dire, Dominique.
Ben oui, mais non, mais c'est pas moi qui vais vous dire. C'est un organisme américain, l'USPSTF, alors je vous fais grâce du libellé complet,
merci,
qui est chargé d'évaluer l'intérêt, la pertinence et les risques éventuels des stratégies médicales. Alors, je suis toujours fasciné par l'intelligence et la rigueur de cet organisme. Il commence par identifier les bonnes questions, ensuite les réponses dans la littérature scientifique, propose une synthèse sur leur site pour ouvrir un débat public, puis rédige enfin un avis définitif et argumenté. Et la question principale était simple. Existe-t-il des études qui prouvent que la réalisation d'un ECG chez une personne sans symptômes va améliorer son espérance de vie ou diminuer son risque de présenter une maladie de cœur invalidante, tout cela sans lui faire courir de risques intempestifs ?
Bon, est-ce qu'on va l'avoir notre réponse ou non ?
Eh ben, ça dépend du sujet. Alors, chez un homme ou une femme à faible risque, qui ne fume pas, ne présente ni diabète, ni hypertension, l'USPSTF conclut qu'il est très improbable qu'un ECG systématique soit bénéfique, qu'il soit réalisé au repos ou pendant une épreuve d'effort. Donc, cet organisme recommande de ne pas pratiquer d'ECG systématique dans cette population. Alors, en revanche, chez un sujet qui présente un ou plusieurs de ces facteurs de risque cardiovasculaire, l'USPSTF constate que les données disponibles sont insuffisantes pour forger une recommandation et la réponse à la question est « on ne sait pas ».
Bon, c'est une réponse de Normand, ça.
Bah oui, mais c'est toujours difficile de gérer le doute en médecine. Il est pourtant présent partout. Alors, rien n'est plus rassurant qu'une certitude, mais les certitudes mal étayées sont parfois dangereuses, surtout quand elles concernent la santé. Il faut accepter le doute.
Merci beaucoup, docteur Dupagne. De retour donc avec sa chronique sur France Inter de Santé Polémique, franceinter.fr pour la réécouter. Et c'est donc désormais le mardi.
Exactement.
À la semaine prochaine.